qui est directrice adjointe du laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, CEA-CNRS. Elle est auteure d'un livre qui s'appelle « Climat d'hier à demain », dont il vient de sortir une nouvelle édition aux éditions du CNRS. J'ajoute que c'est un livre qui a reçu le prix Jean Rostand en 1994. Vous savez, car c'est une question qu'on nous pose souvent, que vous pouvez retrouver l'UTLS sur deux sites internet, le programme, la mise en perspective, le sens des modules sur le site de la mission 2000 en France, qui est le www.2000enfrance.com. Et vous pouvez retrouver une retranscription audio papier, enfin si je puis dire, sur le cadre du net, sur le site de Télérama qui est www.télérama.fr. J'ajoute enfin, et j'en aurai terminé, que la conférence de demain a changé de conférencier, mais non pas de titre. Donc il s'agira toujours de mathématiques et réalité, mais c'est Pierre Cartier qui la présentera. Voilà, je laisse maintenant la place à Sylvie Joussaume pour une conférence sur les climats et paysages de l'ère préhistorique.
Oups. Voilà, non, c'est vrai qu'il ne faut pas que je regarde directement. Bien, bonjour. Donc, je voudrais vous parler des climats, de l'histoire des climats du passé, et plus particulièrement du cadre dans lequel les hommes de la préhistoire ont évolué et se sont ont vécu. Donc je voudrais brosser la succession des glaciations, en gros le climat du Quaternaire, les deux derniers millions d'années, qui ont été marqués par des grandes glaciations et qui ont vu toute l'évolution de l'homme. Et en même temps, ensuite, notre climat, en fait, notre interglaciaire, notre climat chaud qui dure depuis environ 10 000 ans et que l'on appelle l'Holocène, et pour lequel il y a aussi des points intéressants à mentionner. Tout au long, j'essaierai de vous donner un peu des idées sur les outils de la paléoclimatologie, l'étude des climats du passé, vous montrer un petit peu où on en est, vous montrer aussi qu'on a des questions, que tout n'est pas nécessairement résolu. Et j'essaierai, bien que je sois moi climatologue, je ne suis absolument pas préhistorienne, j'essaierai de faire dans la mesure du possible le lien avec la préhistoire, parce que je trouve que c'est assez fascinant de voir dans quelle mesure le climat a pu influencer ou pas l'histoire de l'homme. Donc on va commencer par une série de diapositives et je vais vous plonger directement dans la dernière glaciation. Alors attendez, oui, parce que la technique, il faut que ça suive. Donc là, vous avez directement la Terre, il y a 20 000 ans, au maximum de la dernière grande glaciation. Peut-être qu'il faudrait baisser un tout petit peu, c'est un peu fort, non, point de vue éclairage, là, si on peut baisser, peut-être un tout petit peu baisser les... Je ne me rends pas bien compte comment ça passe. Vous avez la Terre, il y a 20 000 ans, qui était le moment de la dernière grande glaciation, avec des calottes de glace qui recouvraient le nord de l'Amérique et le nord de l'Europe. En Europe, les glaces descendaient jusqu'à Berlin, Amsterdam, pour vous donner une idée. La diapositive suivante. Alors, attendez, parce que ça marche comment ? Merci. Ces glaces, elles ont laissé des traces. Et la connaissance qu'on a eue de ces glaciations a d'abord été par la géologie. Typiquement ici, vous avez des stries qui ont été gravées par les glaciers au Canada, ceux de la dernière grande glaciation, tout simplement parce qu'un glacier s'écoule, souvent sous son poids, et il entraîne des débris rocheux tout au long de sa course qui vont racler avec une, vous imaginez, une masse énorme de glace. Il y avait 3 à 4 000 mètres de glace sur le nord de l'Amérique et le nord de l'Europe. Et vous avez ces glaciers qui s'écoulent et qui gravent au passage le sol et qui ont laissé ces marques dans le sens de l'écoulement de la glace. Diapositive suivante. Alors, quand ils transportent ces débris rocheux, ceux-ci s'accumulent. Ici, vous avez des moraines. Ce sont tous ces débris qui ont été transportés par les glaces ici dans les Alpes et qui se déposent au front du glacier, là où le glacier fond, et qui provoquent ces accumulations de matériaux qu'on appelle les moraines. Alors ici, c'est assez spectaculaire parce que vous avez ça fait carrément des monticules imposants parce que ces moraines qui ont été d'habitude érodées par toutes les pluies, ici ont été protégées par une plaque, une roche, qui a empêché l'érosion d'éliminer complètement ces moraines. Les glaces sont capables de transporter d'énormes blocs de roches. Vous avez ici un rocher, vous avez ici un homme, donc vous voyez la taille du rocher. Eh bien, ces rochers ont été transportés à plusieurs centaines de kilomètres de leur lieu d'origine, pour vous montrer l'importance de la force de ces glaces. Et ce sont aussi ces blocs qui ont permis de se rendre compte qu'il y a eu dans le passé une glaciation. Parce qu'en fait, on n'a pas du tout toujours eu conscience qu'il y avait une glaciation. Ce n'est pas très évident, quand on vit dans le climat actuel, de se rendre compte qu'il y avait d'énormes calottes de glace sur le nord de l'Amérique et le nord de l'Europe. Alors, c'est un Suisse, Louis Agassiz, en 1837, qui, le premier, a eu l'idée, en voyant ces gros blocs de roches dans les Alpes, transportés loin, qui se retrouvent maintenant loin de leur lieu d'origine. C'est le premier qui a eu l'idée de dire que finalement, ces rochers avaient été transportés par les glaces et non par l'eau, parce qu'à l'époque, on était persuadé que ces rochers avaient été transportés par l'eau et que c'était la preuve intangible du déluge. Résultat, en fait, quand il a commencé à proposer cette idée, il y a eu 25 années de polémique, parce qu'évidemment, les gens ne se sont pas laissés faire et ont pensé que c'était complètement impossible, que ça remettait en cause la Bible et donc que c'était blasphématique et qu'il fallait absolument réfuter cette idée. Donc après 25 années de polémique, il a réussi à faire admettre son idée et c'est à partir donc de la moitié du 19e siècle qu'on s'est rendu compte qu'on a vraiment admis qu'il y avait eu des glaciations par le passé. Alors en fait, avec la géologie, on arrive à reconstituer dans les Alpes à peu près 4 grandes glaciations. Donc on est resté pendant un siècle avec l'idée qu'il y avait eu 4 grandes glaciations dans toute l'histoire de la Terre. En réalité, il y en a eu bien plus. Et il a fallu attendre les années 1950 par les forages dans les sédiments marins. Diapositive suivante. Vous voyez ici une campagne océanographique où on envoie un carottier au fond des sédiments marins pour aller prélever une carotte de plusieurs dizaines de mètres et remonter à l'histoire du climat à travers ces carottes. Alors, ça paraît peut-être pas si évident, effectivement. Vous avez au fond des océans, le fond des océans, c'est la poubelle. En fait, on récupère tout ce qui tombe, qui vivent comme les animaux, les fossiles calcaires d'animaux qui vivaient à la surface ou au fond des océans. Et tout ça, quand les animaux, les faunes, les planctons meurent, les coquilles calcaires de ces fossiles se déposent au fond des océans. Résultat, quand on fore dans les sédiments, on va pouvoir aller récupérer les petites bestioles qui vivaient dans l'océan dans le passé. On va arrêter les diapositives, s'il vous plaît. Je vais reprendre la même photo, mais en vous montrant si ça marche. Oups, petit problème technique. Voilà, c'est un peu flou, c'est pour ça que j'ai pris les diapos, parce que c'est quand même plus net. Donc, dans ces forages par des carottiers, on remonte dans les sédiments à des petites bestioles comme ça, des fossiles calcaires. Voilà, je bouge, là, c'est pas fait pour. Qui sont en fait des foraminifères, du plancton, du zooplancton, des faunes, qui ont vécu à la surface des océans et en mourant, se sont déposés au fond des océans. Or, en fait, par ces petites bestioles qui mesurent, vous avez ici une échelle 100 microns, hein, donc on va chercher des quantités qui sont des éléments qui sont tout petits pour remonter à l'histoire des glaciations à l'échelle de toute la Terre. Alors, comment on peut faire. Là, je veux bien que vous me le laissiez. Non, oui. On peut remonter à partir de ces coquilles tout simplement par la composition du calcaire. Ces coquilles calcaires contiennent de l'oxygène, hein, le calcaire c'est la CO3, contient de l'oxygène, qui en fait existe sous deux formes. On a deux isotopes de l'oxygène, ceux qui nous intéressent, c'est l'isotope normal qui est l'oxygène 16, et puis un autre isotope plus lourd, l'oxygène 18, qui contient deux neutrons de plus. Alors ils ont à peu près les mêmes propriétés, sauf que comme ils n'ont pas la même masse, il y a une petite différence qui fait que du coup on peut avoir des informations. Alors, l'oxygène 18 de l'eau de mer, ce qui se passe, c'est que lorsqu'il y a des glaces qui s'accumulent sur les continents, à ce moment-là, l'oxygène 18 de l'eau de mer augmente en proportion, tout simplement parce que ces glaces, elles, se déposent avec très peu d'oxygène 18, ce qui fait qu'en contrepartie, vous avez plus d'oxygène 18 qui se retrouve concentré dans l'eau de mer. Eh bien, en allant mesurer l'oxygène 18 dans ces coquilles, on arrive à remonter au volume des glaces sur les continents. Alors voilà un exemple, peut-être faudrait que j'enlève le train, machin. Voilà, J'ai du mal avec ce système. Voilà un exemple de carotte. Vous avez, en fonction de la profondeur, ici, c'est une carotte qui fait 16 mètres de profondeur et qui couvre l'histoire de la Terre sur 800 000 années. Vous avez ici l'échelle de temps avec un repère qui est le renversement du champ magnétique il y a 700 000 ans. Et on voit, ici on a porté le rapport oxygène 18 sur oxygène 16, qui montre que quand ce rapport est relativement, ici vous avez des valeurs faibles, vous avez un climat chaud, interglaciaire, des valeurs plus fortes, un climat froid glaciaire, un climat chaud, un climat froid, un climat chaud, un climat froid, un climat chaud, un climat froid. En fait, c'est pas, je dis chaud-froid, mais c'est un abus de langage. En fait, c'est un climat chaud, c'est-à-dire avec peu de glace sur le continent, un climat froid, c'est-à-dire beaucoup de glace sur les continents, à nouveau un interglaciaire, un glaciaire, un interglaciaire, un glaciaire. En fait, ce que l'on voit dans cette carotte, c'est qu'il y a eu des grandes glaciations à peu près tous les 100 000 ans, depuis le dernier million d'années. Donc elles se sont succédées régulièrement, avec en général les périodes chaudes ici, par exemple le dernier interglaciaire avant le nôtre, celui qui s'est produit il y a 120-130 000 ans, qui a duré environ 10 000 ans. C'est-à-dire qu'en général, les périodes chaudes sont plutôt moins nombreuses que les périodes où la glace s'accumule sur le nord de l'Amérique et le nord de l'Europe. Alors, grâce à ce genre de carottage, on a pu mieux connaître le rythme de ces glaciations et de se rendre compte qu'elles sont rythmées avec des périodes de 100 000 ans, c'est le rythme moyen, mais qu'on voit aussi apparaître d'autres périodes, des cycles de 40 000 ans et puis des cycles plus rapides de 20 000 ans. En fait, ce résultat a permis d'étayer une théorie qui avait été proposée bien avant d'avoir ce genre de carottage. Est-ce qu'on pourra... par contre, je ne vois plus personne. On dirait, je ne peux pas vous voir tous, mais j'aime bien voir un minimum la salle, sinon j'ai du mal. Un tout petit peu. Merci. On a donc, en fait, les carottages dans les sédiments marins ont permis de mettre en évidence ces périodes, 100 000, 40 000, 20 000. En fait, ces périodes sont exactement les mêmes périodes que celles qui animent le mouvement de la Terre autour du Soleil. Si on regarde l'astronomie nous dit que le mouvement de la Terre fluctue au cours du temps. Alors très lentement, hein, rassurez-vous, on s'en rend très peu compte. Et ça, c'est lié à l'action des autres planètes du système solaire. Vous avez tout d'abord la forme de l'orbite terrestre qui passe. Vous avez le Soleil, la Terre. On peut passer d'un cercle parfait à une ellipse très légèrement aplatie, pas énorme, mais légèrement aplatie. Et ça, justement, ça a une période de 100 000 ans. On retrouve exactement la période de 100 000 ans qui rythme les glaciations. Autre paramètre, vous rappelez dans vos cours de géographie, l'axe de la Terre est légèrement incliné d'une vingtaine, 22 degrés. Eh bien, cette inclinaison qui joue un rôle capital dans le rythme des saisons, hein, puisque lorsque la Terre tourne un coup, on se retrouve du côté un peu opposé au Soleil et donc on reçoit moins d'énergie dans l'hémisphère. Et au contraire, de l'autre côté, on pointe vers le Soleil et on reçoit un peu plus d'énergie. Donc ce paramètre, l'obliquité, est vraiment le paramètre clé pour les saisons. Eh bien, il fluctue très légèrement entre 22 et 25 degrés. Résultat, lorsqu'on est un peu plus incliné, vous imaginez bien que vous allez avoir pendant l'été un peu plus d'énergie aux hautes latitudes et pendant l'hiver, au contraire, un peu moins, on va moduler le rythme des saisons. Période 40 000 ans. Dernier processus, phénomène, il est un peu plus complexe, c'est la précession des équinoxes. Vous avez la rotation, la Terre, je ne sais pas si ça se voit, qui, en plus, la Terre est animée d'un mouvement comme une toupie, c'est-à-dire qu'elle se met à tourner comme ça, entre autres par l'action de la Lune, et elle se met à tourner comme ceci. Donc, c'est ce que j'ai figuré là. Vous avez un mouvement de rotation de l'axe de rotation de la Terre. Alors, vous allez me dire, oui, qu'est-ce que ça fait? Là, c'est déjà un peu plus complexe. Alors ça a un rapport avec le fait que les saisons, la position des saisons dans l'ellipse et la distance Terre-Soleil. Alors, vous avez la configuration aujourd'hui. L'orbite de la Terre est légèrement elliptique, hein, légèrement, donc, et le Soleil occupe un foyer. Et ce qui fait qu'il y a une saison pendant laquelle on passe au plus près du Soleil, et une saison où on passe au plus loin. Alors, il s'avère aujourd'hui qu'on passe au plus près du soleil en hiver, au solstice d'hiver, et qu'on passe un peu plus loin du soleil en été. Or, en fait, plus on est loin du soleil, moins on reçoit d'énergie, plus on est près, plus on en reçoit. Résultat, actuellement, évidemment, c'est minime, hein, c'est quand même pas ça qui rythme les saisons, mais on a un effet du deuxième ordre, qui est que dans notre hémisphère, les hivers sont un peu plus doux, même si vous n'en rendez pas vraiment compte, et les étés un peu plus froids qu'il y a 10 000 ans, qui était la situation inverse. Vous imaginez la rotation de la Terre, résultat, on fait un demi-tour, on se retrouve dans la situation inverse, on se retrouve au plus près du soleil en été et au plus loin en hiver. Eh bien, c'est ce qui s'est produit il y a 10 000 ans, et vous verrez un peu plus loin que ça, ça a des effets loin d'être négligeables. Eh bien, en fait, c'est un mathématicien serbe, Milutin Milanković, qui, dès les années 1920, alors qu'il ne savait rien, il savait juste qu'il y avait eu 4 grandes glaciations. Il n'avait aucune idée des datations, il n'y avait pas d'outils pour pouvoir dater. Eh bien, il s'est dit, ce qui doit avoir une influence sur ces cycles glaciaires, c'est l'astronomie, c'est la distance Terre-Soleil, c'est l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre, et il a émis cette théorie. Alors, ce qu'il y a, c'est que la théorie a été très discutée pendant longtemps, parce que comme on n'avait pas de datation, on pouvait toujours dire que c'était ça qui influençait, mais on n'avait aucun moyen de le vérifier. Il faut attendre 1976, donc quand même un certain temps après, pour que sa théorie soit vraiment bien acceptée, quand on a pu mieux dater les carottages et se rendre compte qu'on avait exactement les mêmes périodes dans les sédiments marins et dans l'astronomie. Donc, ce que l'on pense, c'est que ces cycles glaciaires-interglaciaires sont pilotés par la quantité d'énergie qu'on reçoit du Soleil et donc par ces paramètres orbitaux, enfin ce paramètre qui régissent le mouvement de la Terre autour du Soleil. Alors à partir de là, comment on passe du forçage, c'est-à-dire de la quantité d'énergie qu'on reçoit, à la réponse du système qui sont ces cycles glaciaires et ces grandes calottes de glace? Alors là, je peux vous dire qu'on n'a pas encore tout résolu et que c'est une des questions qui anime quand même pas mal notre communauté, de façon à comprendre les processus. Parce qu'on a du mal à comprendre, en particulier, il y a le cycle de 100 000 ans, la variation de l'orbite terrestre, c'est quand même un phénomène très petit. Et quand on fait des calculs d'ordre de grandeur d'un point de vue énergétique, on est 10 fois trop faible pour expliquer le changement de température. Donc on a probablement, il y a ce que l'on pense, c'est que les phénomènes comme la précession ou l'obliquité, qui sont pas du tout à la période de 100 000 ans, mais à une période de 20 000 et 40 000, et bien finalement, ce sont quand même eux qui jouent sur les cycles de 100 000 ans, tout simplement parce que le système est suffisamment complexe et plein d'interactions à l'intérieur du système qui font que finalement ressortent une combinaison de périodes qui donne une période à 100 000 ans. Mais on a encore du travail et il y a encore des choses à bien clarifier pour bien comprendre ce qui se passe à cette échelle. Pour vous brosser les paysages maintenant de la préhistoire, donc là je vous ai donné plus la partie un peu théorie, le cadre général de ces glaciations. L'outil que l'on utilise, ce sont les pollens. Cette fois-ci, on va utiliser la palynologie, l'étude des pollens, tout simplement parce que les pollens émis par la végétation se préservent très très bien et se préservent dans des lacs ou dans des tourbes. Vous avez ici un exemple de forage dans des lacs en Haute-Loire. Vous avez une installation au milieu du lac avec un système pour forer et on va aller chercher les sédiments qui se sont déposés dans le lac et qui conservent une trace de la végétation qui environnait le lac. Par l'étude des pollens, je vais vous montrer en fait à quoi ressemble un pollen. On peut remonter à la végétation, donc au paysage qui entourait cette région. Alors ici, vous avez différents types de pollen. Alors, je ne suis vraiment pas spécialiste des pollens, parce que là, il faut vraiment être botaniste, et j'avoue que là, ce n'est pas mon fort. Vous avez des pollens de pin, des pollens d'armoise, ou des chénopodes ici. Vous avez différents types. En fait, chaque type de végétation donne un pollen qui a une forme complètement différente. Maintenant, quand vous voyez ça, vous voyez que le palynologue, eh bien, quand il a une couche sédimentaire, eh bien, il faut qu'il aille compter les différents types de pollen pour savoir quelle est la proportion de tel type de végétation et de tel autre, tout en sachant bien les reconnaître et les compter. C'est un travail absolument gigantesque. Grâce à ça, on peut remonter au climat. Je vais me concentrer sur le climat du dernier cycle climatique, ce qu'on appelle un cycle climatique, c'est un cycle glaciaire-interglaciaire. Donc l'histoire d'abord du dernier cycle climatique, c'est vrai que c'est pas très net, hein. Bon, donc le dernier cycle climatique, les derniers 120-130 milliers d'années. Vous avez ici un indicateur du volume des glaces. Je vous ai dit, le volume des glaces, on l'a par l'oxygène 18 dans les bestioles qui vivent dans l'océan. Donc vous avez le dernier interglaciaire, peu de glace. On rentre dans la glaciation il y a 115 000 ans. En fait, on rentre, mais on rediminue. Enfin, les glaces fondent encore une partie, on a des oscillations, on re-rentre à nouveau plus profondément dans la glaciation, jusqu'à atteindre le maximum dont je vous ai montré la représentation tout à l'heure, qui est le dernier maximum glaciaire. On en est sorti, on a commencé à en sortir il y a 15 000 ans et on en est complètement sorti depuis 10 000 ans, c'est l'Holocène. Parallèlement à ça, vous avez... Oh là. Non, je laisse celui-là, j'en ai pour un petit peu de temps. Parallèlement à ça, on peut reconstruire les pollens. Alors ici, c'est un site de la Grande Pile dans les Vosges, qui est une des premières belles carottes qui a été obtenue sur le continent pour brosser l'évolution du climat en Europe. Et vous avez l'évolution suivante. Vous avez en jaune, je ne sais pas si le jaune se voit très bien, vous avez en jaune, ce sont les herbes, tout ce qui est herbacées. En vert, tout ce qui est arbre décidu, autre que le pin, parce que le pin a un comportement toujours un peu différent des autres. Et ce que vous voyez, c'est qu'en gros, quand on est dans un climat interglaciaire, on a beaucoup d'arbres, très peu d'herbes. Quand on rentre dans la glaciation, commence à apparaître l'herbe, on en ressort, on a à nouveau des arbres, on rentre à nouveau, on réenglace un petit peu, le volume des glaces augmente à nouveau, de l'herbe, puis après on sort pas complètement, hein, il reste toujours un peu de glace, mais on pense qu'en Europe la glaciation s'est vraiment implantée il y a 80 000 ans, donc elle a commencé, c'est complètement retiré et après elle redémarre à partir de 80 000 ans. Et effectivement, à partir de 80 000 ans, s'installe en Europe de l'herbe, de la steppe, et on a dans toutes les régions en Europe de l'Ouest de la steppe, une steppe froide qui s'implantent jusqu'à ce qu'on sorte de la glaciation et qu'on retrouve les arbres et les forêts. Donc, parallèlement, c'est en fait dans ces conditions climatiques qu'a évolué l'homme en Europe. Typiquement, donc, je vous ai remis en dessous, on va remonter légèrement, pour vous resituer. Vous avez en gros de 130 000 ans à 30 000 ans, vous avez l'homme de Néandertal, d'abord dans une forme archaïque jusqu'à peu près 80 000 ans, puis après complètement développé. Vous avez donc l'homme de Néandertal qui a évolué et qui a subi cette succession de climats chaud, froid, chaud, froid, chaud, et puis froid, et qui a dû s'adapter complètement à ces conditions très froides. Alors l'homme de Néandertal est en fait la suite d'une évolution. L'homme est arrivé il y a environ 800 000 à 1 million d'années. En fait, là, apparemment, les préhistoriens ne sont pas tous d'accord. Il y en a qui pensent que c'est 500 000 et d'autres jusqu'à 1 million. Et petit à petit a évolué jusqu'à faire la branche Néandertal. Alors en fait, ce que pensent les préhistoriens, c'est que le fait que l'Europe ait été englacée régulièrement a fait que le climat n'était quand même pas si clément que ça, enfin c'était pas si terrible pour vivre, et a relativement isolé l'homme des autres régions, que ce soit l'Asie ou l'Afrique, et que finalement, ça aurait favorisé le développement de l'homme de Néandertal qui s'est vraiment pleinement développé en Europe. En fait, l'homme de Néandertal a une stature, là vous en avez son crâne, c'est lui qui a la barre, l'arcade sourcilière très prononcée, un crâne, un front plus plat que l'homme moderne, et qui est d'allure extrêmement trapue. Et en fait, d'après Jean-Jacques Hublin, ça correspond, en fait, sa conformation ressemble plus aux Esquimaux, qui sont très bien adaptés au froid, qu'à d'autres populations, du moins dans le rapport entre les membres et le tronc. Donc, le fait qu'il y ait eu cette succession de climats glaciaires a probablement joué un rôle sur le développement de l'homme et l'apparition de ce développement d'une branche particulière qu'est l'homme de Néandertal, jusqu'à il y a environ 35 à 30 000 ans dans les zones, dans les régions les plus au sud. L'homme moderne, lui, l'homme de Cro-Magnon, nous en fait, l'Homo sapiens sapiens, lui est arrivé en Europe environ il y a 40 000 ans. Alors en fait, l'homme moderne, on le voit au Moyen-Orient plus tôt qu'il y a 40 000 ans. On le voit déjà il y a à peu près 90 000 ans. Donc il est arrivé relativement tardivement. Alors, à moins qu'on retrouve, à moins qu'un jour, évidemment, on retrouve d'autres indicateurs. C'est toujours pareil en préhistoire, ne pas trouver d'hommes modernes antérieurs ne veut pas dire désormais qu'il n'y en a pas, c'est peut-être aussi qu'on n'a pas trouvé d'archives. Donc, disons que pour le moment, l'homme moderne semble arriver il y a à peu près 40 000 ans en Europe. Pendant une période, vous voyez ici, de régression des herbes. Donc, il n'y a pas vraiment d'arbres, c'est quand même pas un climat extrêmement clément, mais il y a quand même une régression de l'herbe. Et il a pu profiter de ce redout pour envahir l'Europe. Alors pourquoi il a envahi l'Europe à ce moment-là? Pourquoi il ne l'a pas fait à d'autres moments plus avant? Là, je ne suis pas sûre qu'on soit capable de répondre à cette question. Alors, comment était un peu le climat à cette période-là, dans cette steppe froide? En fait, on arrive par les pollens à remonter à la température et aux précipitations. Tout ça pourquoi? Parce que la végétation, si on regarde la distribution actuelle de végétation, celle-ci est très liée aux conditions de température et de précipitation. Donc en regardant comment est distribuée la végétation actuellement, on essaye de déduire de la distribution passée comment était le climat. Alors avec une énorme limite, c'est qu'il faut trouver un climat analogue à celui du passé, c'est-à-dire qu'il faut trouver actuellement dans la diversité des répartitions de végétation quelque chose qui ressemble. Alors en climat glaciaire, c'est un peu limite, dans la mesure où il n'y a pas vraiment de zone où il y avait cette steppe froide comme on la voit dans les organisations, les distributions de pollen. Alors il semblerait que la température, enfin les estimations que l'on a sont des estimations de température de 10 à 15 degrés plus froide, et particulièrement en hiver. En hiver en France, ça pouvait être jusqu'à moins 20, moins 25, voire moins 30 degrés plus froid qu'actuellement. Donc des conditions quand même très froides, sèches. Un climat plus sec, finalement peut-être pas nécessairement si défavorable à l'homme, comme on va le voir un peu plus loin, même si les conditions n'étaient pas nécessairement très faciles à vivre. Alors ce climat glaciaire est associé, vous avez une carte qui représente l'hémisphère nord au moment du maximum de la glaciation. Alors, vous avez je ne sais pas quelle couleur ça fait ici, en orange foncé, les continents actuels. Et vous avez ici, en jaune pâle, les nouveaux continents à l'époque. C'est-à-dire qu'avec l'abaissement du niveau de la mer, vous avez des zones qui sont libérées de la mer, parce que le niveau de la mer était 120 mètres plus bas qu'actuellement. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que ces masses de glace qui se sont formées sur le nord de l'Amérique et le nord de l'Europe, eh bien, elles correspondent à 120 mètres d'eau. Vous prenez 120 mètres de la mer, de l'océan, et vous les congelez sous forme de calottes glaciaires sur les continents. En quelques milliers d'années, je vous l'accorde, ce n'est pas tout à fait instantané. Et on avait donc des zones, on allait à pied de la France en Angleterre, et on avait entre autres le passage de l'étroit de Bering qui était libéré et qui permettait le passage des hommes. Donc c'est ainsi qu'on pense que les hommes sont passés d'Asie en Amérique du Nord, probablement à la faveur de cette glaciation, bien qu'il y ait encore des questions à quel moment. C'est-à-dire que l'idée là, généralement admise, c'est qu'ils sont passés au maximum de la glaciation, parce qu'en Amérique du Nord, on trouve des civilisations qui datent d'environ 12 000 ans, mais en Amérique du Sud ou en Amérique centrale, on a trouvé quelques dates qui étaient antérieures et pour lesquelles on a encore des questions. On se demande si en fait ils ne sont pas passés un peu plus tôt, dans la mesure où en fait pour libérer le passage, il suffit de 40 mètres d'abaissement du niveau de la mer et il ne faut pas nécessairement attendre le maximum de la glaciation pour passer. Alors, je vais repasser aux diapositives, s'il vous plaît. Alors pour brosser le climat à quoi pouvait ressembler le climat dans cette période glaciaire, ici vous avez un paysage de toundra qui est avoisinant le Groenland. Donc probablement ça devait ressembler à ça. Déjà quand on dit une steppe froide, ça doit ressembler à ce genre de végétation. C'est-à-dire une végétation très rase, herbacée. Donc les la courbe jaune tout à l'heure que je vous ai montrée, concrètement, ça donne un paysage de ce genre-là. Alors ici, on est en zone périglaciaire, c'est-à-dire juste à côté du Groenland, donc on est dans une zone où le sol est gelé en profondeur. C'est-à-dire même s'il dégèle en surface, il ne dégèle jamais en profondeur. À un mètre en profondeur, le sol est gelé toute l'année. Résultat, l'eau est barrée, enfin ne peut pas s'infiltrer, et vous avez, c'est ce qui fait ces zones assez marécageuses, de la toundra. Alors, c'était probablement vrai dans la zone proche de la calotte glaciaire, donc peut-être même jusqu'à Paris. Plus au sud, on avait encore de la steppe, mais probablement un peu plus clémente, parce que on ne devait plus être dans la zone de permafrost, c'est-à-dire de sol gelé. Diapositive suivante. Alors, ce climat, d'une certaine façon, était rude, faut quand même, avec moins 10, moins 15 degrés en moyenne annuelle et moins 30 en hiver, degrés par rapport à maintenant. Donc, vous imaginez quand même des conditions pas évidentes. Mais finalement, pour les hommes de l'époque, que ce soit l'homme de Néandertal ou l'homme de Cro-Magnon, ce sont des hommes qui étaient des chasseurs, cueilleurs ou pêcheurs. Et finalement, c'est un climat qui est favorable au développement des troupeaux, et particulièrement le renne. On a trouvé énormément d'ossements de renne dans les sites archéologiques qui montrent que l'homme se nourrissait des rennes, qui effectivement aiment beaucoup ce genre de climat. On en trouve actuellement encore dans le nord de l'Europe. Diapositive suivante. Il devait aussi se nourrir de mammouths. Vous avez ici celui de la grotte de Pechmerle, qui a ces animaux qui ont disparu en fait, à la fin de la dernière glaciation. Alors, ce n'est pas le seul qui a disparu. En fait, il s'avère qu'à la fin de la dernière grande glaciation, un bon nombre d'animaux, de gros animaux, comme il y avait des grands cerfs qui s'appellent des mégacéros, par exemple, qui ont des rhinocéros, on va le voir. Prenons la diapositive suivante, ça se verra mieux. Donc là, d'abord, ce sont les pingouins de Kosker, la grotte de Kosker, qui actuellement est sous l'eau, et qui, à l'époque, grâce aux 120 mètres d'abaissement du niveau de la mer, n'était pas sous l'eau, et a permis aux hommes d'aller peindre ces magnifiques petits pingouins. Alors, effectivement, dans les animaux qui sont représentés dans les peintures ne sont pas nécessairement ceux qui étaient la base de la nourriture. Donc, les rennes sont pratiquement sont très peu représentées, et généralement sont représentés des animaux qui ne devaient pas nécessairement servir de nourriture, comme ici les pingouins. Diapositive suivante. Et ici, là, peut-être que là, je ne sais pas si vous voyez bien, peut-être qu'il faudrait baisser un peu quelque chose. La grotte de Chauvet, la dernière en date, la dernière qui a été découverte, je ne vais pas y arriver, donc dans l'Ardèche, qui vous montre des lions, vous avez des lionnes des cavernes. Ici, vous devez avoir, ça ne doit pas être un renne, ça doit plutôt être un cerf. Souvent, ce sont des cerfs qui sont représentés, mais là, je ne serais pas très sûre de savoir si c'est un renne ou un cerf. J'avoue que la différence n'est pas toujours évidente. Et puis, des rhinocéros. Effectivement, il y avait des rhinocéros à cette époque et des rhinocéros laineux qui ont complètement, donc avec des longs poils, qui ont complètement disparu à la fin de la glaciation. Alors, cette grotte, la dernière en date, mais en fait, c'est la plus vieille. Elle a été datée récemment et elle date d'environ il y a 31 000 ans, alors que les autres sont souvent autour de 20 000, 20 000, 25 000. Et celle-là, c'est la plus ancienne. Alors, à la fin de la glaciation, effectivement, un grand nombre d'animaux disparaissent, les mammouths, les mégacéros, les rhinocéros laineux. Mammouths, encore, on semble avoir survécu au nord de l'Asie. Et cette extinction est particulièrement marquée en Amérique du Nord. Et en fait, on ne sait pas pourquoi ces animaux ont disparu, parce que manifestement, il y a eu quand même d'autres fois où on a des glaciations qui se sont terminées. Ce n'est pas nécessairement la plus dramatique. Il y a eu une glaciation il y a à peu près 190 000 ans qui était plutôt plus marquée que la dernière. Ils ont disparu. Est-ce que c'était lié à l'homme? Est-ce que c'était purement lié au climat? Aucun des facteurs n'arrive à expliquer ce qui s'est passé un petit peu partout. On va... j'enchaîne sur... Non, c'est bon, vous pouvez là. On peut passer à la suivante. Comme j'avais prévu de faire sur transparent, que je mets sur diapo, parce que c'est meilleur, c'est vrai qu'il faut jongler avec ça. Alors, la période glaciaire, en fait, Pendant longtemps, on l'a vu comme un climat constamment froid, uniformément froid pendant des dizaines de milliers d'années. On avait ces calottes de glace et un climat, des conditions avec des températures, en gros, moins 10 à moins 15 degrés sous nos latitudes. Récemment, dans les 10 dernières années, notre vision du climat glaciaire a beaucoup bougé, a beaucoup varié, parce qu'on s'est rendu compte que ce climat était beaucoup plus variable et beaucoup plus instable que ce que l'on pensait jusqu'à présent. Et ça, ce sont les carottages dans les glaces du Groenland qui ont permis de nous montrer ce signal. Diapositive suivante. Ici, vous avez un glacier. Ce n'est pas au Groenland, celui-là, il est au Pérou. Mais il est une excellente illustration de l'accumulation de la neige année par année. Chaque strate ici que vous voyez apparaître est une année. Dans ces zones, il neige 1 mètre de neige par an, donc les couches sont bien importantes. La neige s'accumule progressivement, puis se tasse pour former de la glace. Et vous voyez qu'en forant dans la glace, on va pouvoir remonter à la composition de la neige telle qu'elle était dans le passé. Diapositive suivante. Vous avez ici un exemple avec Claude Lorius qui a lancé des projets importants au niveau de la recherche dans le domaine de la glaciologie en Antarctique. Et vous avez ici une carotte, typiquement un exemple de carotte prélevée. Alors on prélève petit bout par petit bout, parce qu'en fait, on n'a pas de moyen de prélever des grandes carottes d'un coup, et on fore, et les forages les plus profonds arrivent à atteindre 3600 mètres. Donc on arrive en Antarctique, on a réussi à extraire jusqu'à 3600 mètres de glace par des carottes de 3 mètres par 3 mètres. On va mettre un blanc. Alors ce que nous ont appris les glaces du Groenland, c'est que le climat est très variable. Alors pour ça, je vais revenir à l'oxygène 18. Alors l'oxygène 18, c'est vrai qu'en climat du passé, c'est un de nos indicateurs favoris. Dans les sédiments marins, il nous donne le volume des glaces sur les continents. Dans les glaces en Antarctique, il nous donne la température. Alors vous allez me dire, c'est un peu miraculé avec le même paramètre d'avoir autant d'informations, mais c'est tout simplement parce que l'oxygène 18 suit un cycle atmosphérique qui est tel que plus la température est froide, plus il y a eu de condensation depuis la source d'évaporation qui est dans les régions tropicales, et moins on retrouve d'oxygène 18. C'est le même fait qui fait que dans l'océan, on en retrouve plus en période glaciaire. C'est tout simplement qu'en période glaciaire, on a eu plein de distillations de ce style-là, c'est-à-dire qu'on a énormément fait fonctionner la machine évaporation, précipitation et jusqu'à formation des calottes de glace, qui fait qu'on a des calottes qui sont appauvries en oxygène 18 et l'eau de mer qui se retrouve avec plus d'oxygène 18. Donc c'est la contrepartie. Je vous montre la partie cette fois-ci au Groenland. Alors là, on va avoir du mal parce que ça ne se voit pas très bien. Bon, vous avez un enregistrement ici qui est donc un enregistrement de la température. Et on va brosser le climat sur les 50 000 dernières années. Vous avez le climat récent, les 10 000 dernières années, enfin récent pour nous, paléoclimatologues, les 10 000 dernières années. Et vous avez ici le maximum de la glaciation. Et vous voyez que dans toute la période glaciaire, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, eh bien on a des oscillations de la température qui sont extrêmement importantes, pratiquement aussi importantes que le changement de température entre un climat glaciaire et un climat moderne. Et ça, on s'en est rendu compte relativement récemment parce qu'il a fallu commencer à faire des analyses à plus haute résolution, alors qu'en général, bon, c'est quand même à chaque fois très lourd au point de vue analyse. On faisait des analyses d'échantillons moyens, alors que là, on a analysé plus finement. Alors, on a analysé pas seulement ce forage au Groenland, qui se trouve là, ici, au centre du Groenland, mais aussi, alors là, je ne sais pas, vous voyez, un forage dans les sédiments marins, ici, qui, lui, nous montre que régulièrement, ça a été mis à la même échelle, on a une composition, en fait, c'est la composition de ce sédiment. C'est assez dur de marcher. D'habitude, le sédiment, il est formé de coquilles de foraminifères. C'est ce que je vous ai montré au début. Hein. Ça, c'est la majorité. On a des fossiles de faune planctonique pour la plupart, hein, celles qui vivent à la surface des océans. Et tout d'un coup, lorsqu'il y a ces grands pics, eh bien, la composition du sédiment change complètement. On passe de faune fossile à des cailloux. Tout d'un coup, on retrouve énormément de cailloux dans les sédiments. Eh bien, ces cailloux, on a pu... Oh, c'est vrai que là, je vais vous demander de me croire, parce que ça ne se voit pas très bien, à mon avis. Ici, vous avez des bandes. Hop là, à chaque fois... En fait, ces cailloux arrivent à un maximum de froid et juste après qu'il y ait eu ces cailloux, on a tout d'un coup un réchauffement. Alors, donc, ça arrive plusieurs fois, environ tous les 10 000 ans, 7 à 10 000 ans. Il se passe aussi des choses entre. Ces événements plus rapprochés qui se passent environ tous les 2 000 ans, ils ne sont pas marqués, du moins pas dans cette zone-là, par l'arrivée de débris rocheux. Par contre, plus au nord, on en trouve un peu... Ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand il y a ces grands événements ici, c'est tout simplement que la calotte de glace Laurentide, tout d'un coup, se met à envoyer massivement des icebergs dans l'Atlantique Nord. Les calottes grossissent, et puis ce sont les calottes sont relativement instables, et tout d'un coup, se cassent et apportent massivement des icebergs. Pour vous donner un peu une illustration à quoi peuvent ressembler les bords des calottes, je ne sais pas si ça sortira. Très bien. Vous avez ici la calotte, je pense que c'est au Groenland, celle-là. Et vous voyez que le bord d'une calotte, c'est souvent très fracturé et ça se casse pour donner les icebergs. Hein. C'est-à-dire que ces gros morceaux de glace qu'on retrouve dans l'Atlantique, ils viennent de brisures, de cassures des calottes du Groenland pour l'Atlantique. Lorsque on a ces événements... On a à ce moment-là la calotte Laurentide tout d'un coup apporte une quantité massive d'icebergs. Cet apport d'eau douce stoppe la circulation océanique. Bon, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais en fait joue sur l'océan, qui en retour joue sur l'atmosphère et fait qu'il y a un froid, un climat froid qui s'installe. Et puis lorsque cette décharge s'est arrêtée, la circulation océanique peut se remettre en route et du coup il y a un apport de chaleur brusque vers les hautes latitudes, et tout d'un coup, on a une bouffée de chaleur de 10 degrés en une centaine d'années. C'est-à-dire qu'en fait, en cette pleine période glaciaire, alors que tous les changements se produisent sur des périodes de l'ordre de 1000 ans, vous avez des événements abrupts, très rapides, enfin pour nous, on trouve quand même très rapides à l'échelle des autres phénomènes, en une centaine d'années, quelques dizaines jusqu'à une centaine d'années, on peut avoir un changement de climat. Alors la question qui se pose, c'est de savoir est-ce que ce genre de phénomène, quelle influence a pu avoir pour l'homme? Ça se passe dans l'Atlantique Nord, c'est tout proche de l'Europe et de l'Europe de l'Ouest. Il est absolument impossible que ça n'ait pas eu une influence sur le climat de l'Europe de l'Ouest. Alors en fait, quand on regarde les indicateurs de pollen, comme je vous ai montré, on voit des variations et de plus en plus, les gens qui étudient les pollens, effectivement, essayent de regarder à plus haute résolution pour voir ces événements. Donc il se passe quelque chose, mais on a encore du mal à bien corréler, parce qu'il y a des problèmes de datation entre les deux types, les deux milieux que sont le continent et le marin, de façon à bien vérifier que ce sont les mêmes phénomènes que l'on voit. Il y en a même qui vont jusqu'à penser ça pourrait avoir joué un rôle sur le développement de l'art, celui-ci pouvant se développer plus facilement pendant des périodes relativement plus clémentes, plus douces, en relatif, hein, évidemment, on reste quand même en climat glaciaire. Et par exemple, Lascaux, il a toujours été dit que Lascaux s'est produit pendant un redoux, puisque dans les pollens, on voit une arrivée de noisetiers qui ne peuvent pas être là quand il y a un maximum de froid. Donc, est-ce que ce sont ces événements qui auraient joué sur l'homme? C'est une idée qui est très jolie et je pense que par contre, il reste encore tout à montrer. Alors pour vous, je voudrais sortir un peu quand même maintenant de la glaciation et vous parler du climat des 10 000 dernières années. Alors je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais il y a quand même... Donc vous avez vu... Après les différents enregistrements, les 10 000 dernières années, alors c'est relativement stable par contre. Hein, il s'avère que le climat des 10 000 dernières années apparaît très stable par rapport à tout ce qui s'est passé avant. Est-ce que cette stabilité d'ailleurs n'aurait pas joué un rôle dans le développement de la civilisation? Parce que c'est plus facile quand il n'y a pas trop de changements de développer des civilisations, ça on ne sait pas. En fait, c'est probablement moins stable que ce que l'on pense, mais pour le moment, on le trouve relativement stable. Et il faut qu'on aille regarder d'un peu plus près pour voir ce qui a pu se passer. D'un point de vue de l'homme, il y a 10 000 ans, c'est la révolution avec l'arrivée de l'agriculture, en fait. Hein. Avec le redoux du climat, au Moyen-Orient, vous avez le démarrage de l'agriculture avec, on retrouve des fossiles ici en silex ou des meules en pierre. Et on a le début de l'agriculture. Alors, ce qui se passe, c'est que le climat devient relativement favorable aux céréales qui étaient là de façon naturelle, hein, c'est des céréales sauvages, et l'homme commence à les utiliser. Alors, pourquoi à ce moment-là ? Probablement qu'elles se sont plus développées grâce aux conditions climatiques. Puis, l'agriculture s'est étendue progressivement. Vous avez une carte qui montre... L'agriculture a démarré ici, il y a environ 10 000 ans, à la fin de la glaciation, puis s'est étendue, alors d'abord vers ici, puis un peu plus en jaune, un peu plus pâle, et puis progressivement vers l'Europe, pour atteindre l'Europe entre 6 et 8 000 ans. Alors, le climat a probablement joué un rôle en fait, dans cet établissement, probablement un peu un facteur de stress, parce que pour l'homme, pour les chasseurs de l'époque, la préhistoire, Finalement, le climat glaciaire avec ses steppes était relativement favorable au gibier. C'était facile d'y chasser les gibiers, alors que quand arrive la forêt, ça ne devient pas nécessairement des conditions les plus faciles et ça peut avoir aidé le développement de l'agriculture. Alors, ce climat de l'Holocène, bon, en Europe, c'est l'arrivée progressive, l'établissement du climat méditerranéen, l'arrivée progressive des forêts. Mais là où il se passe quelque chose d'absolument impressionnant, enfin moi je trouve encore plus impressionnant, c'est au Sahara. Ici, vous avez en plein cœur du Sahara des formations calcaires qui datent d'il y a environ 6 à 8 000 ans. Alors qu'est-ce qui s'est passé au Sahara à ce moment-là ? Eh bien à ce moment-là, le Sahara connaît une période humide et un développement de lacs. On trouve en différents endroits des lacs, on trouve des pollens de steppe en plein cœur, alors qu'actuellement c'est du désert. Et on a une période un peu plus humide qui se produit à ce moment-là. Ça vous montre qu'en fait un climat chaud ne rime pas nécessairement avec un désert. Hein, c'est-à-dire que finalement en période glaciaire, qui est un climat froid, le désert était plutôt plus s'étendait davantage, alors qu'en climat chaud, comme il y a 6 à 8 000 ans, au contraire, on avait des pluies en plein cœur du Sahara. Alors, ces buttes calcaires, excusez-moi, ce sont des sédiments qui se sont déposés, toujours à l'aide de restes fossiles d'organismes vivants dans les lacs, ça s'est déposé au fond de lacs, qui maintenant, après, se sont complètement asséchés. Il y a environ 4 à 5 000 ans, brusquement, les lacs ont tous diminué et ont probablement donc été vécu comme une condition difficile. Enfin, il y a eu une modification importante du climat à ce moment-là. Et puis, lorsque le lac s'est asséché, ces dunes qui sont calcaires ont été érodées par les vents et c'est comme ça qu'elles prennent les formes que l'on voit. À la même époque, c'est de cette époque que datent les peintures ou les gravures qu'on trouve au Tassili ou au Tibesti. Alors là, je ne sais pas si vous allez voir. Vous avez un crocodile. Donc on est en plein cœur du désert. Hein. Il n'y a rien. Eh bien, à l'époque, bon, les hommes gravaient des crocodiles. Alors vous allez me dire, ce n'est pas parce qu'il est gravé qu'il y en avait. En fait, on a trouvé aussi des ossements de girafes, d'hippopotames dans des zones où actuellement on ne ferait pas vivre très peu d'animaux qui vivent. Vous avez des crocodiles, et puis c'est la période aussi des peintures avec les bovins. Ici, vous avez différents bovins. Et ça, ces peintures datent aussi de cette période. C'est-à-dire qu'on avait des nomades qui vivaient, qui profitaient de ces points d'eau. Alors, il ne faut pas imaginer le Sahara. On parle souvent de terme Sahara vert. Nous, on aime bien l'appeler comme ça. Mais en fait, ce n'est quand même pas la forêt tropicale. Hein. C'est-à-dire que vous imaginez, c'est de la steppe, donc essentiellement de l'herbe, avec des points d'eau autour desquels les hommes peuvent s'installer et vivre. Alors ça, c'est un des événements qui est assez... Ça vous montre que même en climat chaud, il peut se passer des changements importants. Ça s'est arrêté il y a à peu près 4-5 000 ans. Et ça a dû pousser les gens à se retirer vers typiquement le Nil. Le même genre de phénomène s'est passé en Inde et au Tibet. Il pleuvait également plus à ce moment-là. Alors, ce qui est à l'origine de ce phénomène, je reviens à mon petit schéma de précession des équinoxes. Eh bien, c'est ce changement-là qui a permis d'avoir des pluies au Sahara à cette époque-là. Tout simplement parce que, bon, là, c'est il y a 10 000 ans. En fait, il y a 10 000 ans, il y avait encore des calottes de glace, alors ça tempérait un peu le phénomène. Donc, c'est plutôt quelques milliers d'années plus tard, entre, bon, disons 9 000 et 6 000, que se sont développées ces pluies, tout simplement à cause de ce processus. On est dans une situation où on est un peu plus près du soleil en été. Si on est plus près du soleil en été, on reçoit un peu plus d'énergie, on chauffe le continent. Or, le phénomène de pluie au Sahel ou en Inde, ces pluies sont des pluies de mousson, c'est-à-dire saisonnières, qui sont pilotées par le chauffage du continent en été. Lorsqu'on le chauffe un petit peu plus, eh bien à ce moment-là, l'air par le phénomène de mousson, en fait, l'air est aspiré sur le continent, parce qu'en fait, on a une basse pression thermique qui se développe, l'air est aspiré sur le continent, décharge son humidité sous forme de pluie, eh bien, ce phénomène s'est accru parce que, tout simplement, on recevait un peu plus d'énergie en été. Alors, ce qu'on a pu montrer avec des modèles, c'est qu'en fait, ce phénomène ne suffit pas tout à fait. Il s'avère que ce phénomène aide à modifier la circulation océanique, aidant aussi à emporter des pluies. Et puis aussi, il y a un phénomène assez intéressant qui est que quand les pluies commencent à tomber, il y a de l'herbe, de la végétation qui pousse. Et les végétations, eh bien, elles aident aussi à ce qu'il y ait des pluies qui se développent. Et elles permettent d'entretenir, et la végétation, en retour, a permis d'accentuer le processus. J'arrive à la fin et je voudrais vous parler pour conclure de gaz à effet de serre. Parce qu'en fait, si on vous rabat les oreilles effectivement à longueur de temps en ce moment dans les médias avec le climat et les gaz à effet de serre, et je voudrais vous montrer un peu comment ces gaz à effet de serre étaient dans le passé, comment est-ce que ça se passait. Là, j'ai essayé de vous montrer que le climat a sûrement été un des éléments qui a joué dans l'histoire de l'homme, dans son évolution. Et maintenant, on arrive un petit peu à une nouvelle phase qui est l'homme qui commence à jouer également sur le climat. C'est ce que je voudrais vous illustrer en partant des forages dans les glaces. Vostok, en plein cœur de l'Antarctique, vous avez une carte de l'Antarctique. Vostok se trouve ici à 1000 km des côtes avec des températures moins 50 degrés en moyenne annuelle. Ça peut descendre à moins 90. Et Claude Lorius, que je vous ai montré tout à l'heure, a lancé un projet de collaboration franco-russe qui a permis de développer les analyses de ces carottages. Vous avez ici une analyse d'une couche de glace qui montre les cristaux de glace et des tas de petits points qui sont des bulles d'air. Ce qui est absolument magnifique dans ces enregistrements, dans ces accumulations de glace, c'est que la glace, au fur et à mesure que la neige se tasse pour se transformer en glace, elle est capable de piéger l'air. Elle piège de l'air et on a de l'air en conserve, l'air d'il y a jusqu'à 200 000, voire 400 000 ans. Alors, en faisant, je vais regarder purement le dernier cycle climatique. Alors, attendez qu'on voit comment... Voilà, donc je voudrais vous montrer les 200 000 dernières années, le temps il y a 200 000 ans, le dernier interglaciaire et le climat actuel. Alors, avec trois indicateurs, ici la température, toujours le même, c'est l'oxygène 18 ou le deutérium. Enfin bon, j'ai parlé de l'oxygène 18, mais c'est pareil avec un autre isotope, celui de l'hydrogène qui est le deutérium. Vous avez un indicateur de la température, le climat chaud du dernier interglaciaire. On rentre dans la glaciation, les oscillations, maximum de la glaciation. On en sort il y a 10 000 ans pour atteindre les températures actuelles. Vous voyez que ça ressemble beaucoup aux courbes de volume des glaces. Ça suit, en gros, les glaciations. Ce que nous montrent les glaces, c'est qu'en même temps, on mesure le gaz carbonique et le méthane dans ces glaces. Ce que l'on voit, c'est qu'à chaque fois qu'on a un climat chaud, il y a plus de gaz carbonique, plus de méthane. À chaque fois qu'il y a un climat froid, il y a moins de gaz carbonique, moins de méthane. Alors vous allez me dire, mais finalement, est-ce que ce n'est pas ça qui joue? Est-ce que ce n'est pas ça le moteur des cycles glaciaires-interglaciaires et non pas la théorie de Milankovitch qui va quand même faire appel à des choses assez, assez fines? En fait, ce qui se passe, c'est que ce ne sont pas ces gaz à effet de serre qui sont le moteur, parce qu'entre autres, par exemple, on rentre dans la glaciation alors que le niveau reste encore assez élevé. Donc, c'est un certain retard, ça n'enclenche pas tout de suite. Mais ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure qu'on rentre dans une glaciation, il y a un ensemble de processus et qu'il faut rentrer en ligne de compte, en particulier l'atmosphère, l'océan, mais aussi la biologie, la biosphère, qui font que méthane, les sources de méthane et les sources de gaz carbonique se modifient et on a une diminution de ces gaz. Résultat, on a un amplificateur, un système qui est capable d'amplifier les changements du climat. Quand on est en climat chaud, on a plus de gaz à effet de serre, ça renforce le réchauffement. Quand on est en climat froid, on a moins de gaz à effet de serre, ça renforce le refroidissement. À tel point qu'on pense qu'au maximum de la glaciation, ça jouait pratiquement pour moitié dans l'amplitude du refroidissement. L'amplitude de refroidissement, c'était à peu près 5 degrés à l'échelle de toute la planète. Je vous ai jusqu'à présent toujours parlé des températures dans nos latitudes, moins 10, moins 15 degrés, j'arrive au bout. Et sur l'échelle de toute la planète, c'est à peu près 5 degrés. Je vous demande de retenir ce chiffre, parce qu'après, je vais vous dire, pour le climat futur, vous allez voir l'ordre de grandeur. Donc, on a des variations naturelles de ces gaz à effet de serre qui se produisent dans des échelles de temps. Si on peut revenir, voilà. C'est les variations de ces gaz à effet de serre se produisent ici. Par exemple, on a la partie pré-industrielle par rapport à la partie glaciaire. Ça fait à peu près 80 parties par million et ça se passe en plusieurs milliers d'années. Maintenant, vous avez fait attention à ce qui se passe récemment, l'action de l'homme. Merci de rester, oui, sur la... Donc, on a les variations naturelles, glaciaires, interglaciaires, et voici l'homme. Voici ce qu'on vient d'envoyer depuis un peu plus d'un siècle, 150 ans, d'activité industrielle, autant que ce que fait la nature, mais en 10 fois moins de temps, enfin, peut-être un peu moins, bon, peut-être un peu moins, 5 fois moins de temps, enfin... Non, qu'est-ce que je dis pas, 10 fois moins de temps. Là, on est en milliers d'années et là, on s'entend. C'est un peu plus que. Enfin, 20 fois. Oui, 20, je vais y arriver. C'est 5000 par rapport à 100. Je vais y arriver. Bon, maintenant, le méthane. Alors, attendez, je ne vais pas arriver à le mettre sur. À mon avis, je ne vais pas y arriver. Parce que le méthane, vous voyez les variations naturelles, elles sont là. On passe du simple au double. D'accord ? Vous repérez ce niveau-là. Et le niveau. Non, je n'y arrive pas. Et le niveau de l'action de l'homme, il est là-haut. On a mis tout ça dans l'atmosphère de méthane. Là encore, beaucoup plus rapidement que ce que fait la nature. Et là, par la démographie, en fait, c'est l'agriculture qui est derrière. Hein. C'est les cheptels de bovins. C'est un peu le gaz naturel, les pertes de gaz naturel, mais c'est beaucoup les rizières, les marécages. Donc, c'est la démographie. L'un comme l'autre, d'ailleurs, c'est la démographie, l'accélération de la démographie et de la technologie. Donc, je voudrais vous laisser là-dessus. Vous voyez qu'on a, par rapport aux variations naturelles, on modifie, maintenant, il y a un nouvel acteur qui est l'homme, on modifie la composition de l'atmosphère, on a un certain nombre d'éléments qui nous font penser que ça va vers un réchauffement du climat, et pratiquement, l'ordre de grandeur de ce qu'on prévoit pour dans 100 ans, à peu près 2100, ce serait de l'ordre de 2 degrés que je vous laisse à cogiter par rapport à 5 degrés de changement entre un climat glaciaire et un climat interglaciaire. Je vous remercie.
N'hésitez pas à lever la main et à vous lever pour qu'on vous voit lorsque vous poserez votre question. Et bien voilà, vous avez un micro
juste à côté. Oui, bah, attendez, je reviens après.
Eh bien, cher... Ah, je suis entendu, oui, je suis entendu. Ben, chère mademoiselle, je vous appellerai chère mademoiselle ou chère madame.
Madame.
Parce qu'il faut toujours, quand on parle à quelqu'un, appeler à détendre la personne en question. Voilà, je voulais simplement vous dire, je voulais pas poser des questions, mais simplement signaler, c'est-à-dire certains points. Pour ce qui pourrait concerner, c'est-à-dire le Cro-Magnon, ça n'a absolument aucun rapport avec le néandertalien. Je crois que vous et moi, que nous sommes tout à fait d'accord, n'est-ce pas,
oui,
chère
tout à
madame
fait. Oui, non, je ne pouvais pas rentrer dans les... Je suis pas rentrée dans la
peste. Il faut savoir qu'ils ont disparu il y a 30 000 ans.
C'était non, il n'y a pas 30 000 ans.
Madame, c'était en Espagne.
Ah non, le Néandertal, vous voulez dire. Non, mais
le Néandertalien.
D'accord.
Oui, c'est ce que j'avais dit. Ils ont disparu. Ah non, ils ont disparu il y a 30 000 ans. Ils ont vécu pendant 10 000 ans avec les Cro-Magnons.
Tout à fait, oui.
En
oui.
Espagne, c'était fait par le carbone 14 et par l'ADN. Et pour ce qui pourrait concerner, c'est-à-dire les peintures rupestres, c'était près de Djanet, à 30 km dans le Sahara. C'est les plus belles peintures qui sont à environ 400 km d'Alger. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
D'accord, je vous remercie pour ces précisions. Des questions, il y en avait par là. Il y en avait là-dedans. Et là, ils sont manifestés très vite, très rapidement, mais on ne les voit pas en bas. Ah. Je ne sais pas où courent les micros.
Est-ce qu'il y a des données de cette période?
Attendez, je ne vous vois pas, parce que je ne peux pas répondre si je ne vois pas la personne. Je ne vois rien. Ah, merci, parce que quand je ne vois, je vois pas là.
Est-ce que les données de cette période, du moins de ce qu'il en reste, peuvent servir actuellement aux modélisations de climatologues, le TREUT au CNRS, par exemple?
Tout à fait. D'ailleurs, c'est en fait mon domaine, c'est celui-là, c'est-à-dire d'étudier les climats du passé à partir des modèles, les mêmes modèles que ce qui sont ceux qu'on utilise pour les climats du futur, de façon à voir, d'une part, s'en servir comme un outil pour comprendre. Et typiquement, ce qu'on a appris sur les pluies au Sahara, c'est que d'abord, c'était le rayonnement solaire qui permettait de les faire, mais qu'en plus, on avait des mécanismes amplificateurs avec la végétation, par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'on a pu apprendre par des modèles. Et aussi, le sujet dont je m'occupe, c'est de voir justement si on ne peut pas tester ces modèles sur des climats différents du climat actuel. Dans la mesure où ces modèles sont validés sur le climat actuel, qu'on veut les utiliser pour prévoir un climat différent, puisque le climat futur avec 2 degrés serait quand même différent du climat actuel, on a besoin d'être capable de voir s'ils sont capables de reproduire un climat bien différent comme celui du maximum de la glaciation. Donc c'est tout à fait, ça c'est plus directement mon sujet, c'est pas un sujet nécessairement très facile parce qu'en fait, c'est pas nécessairement si facile de plonger ces modèles dans des situations différentes, on a beaucoup d'incertitudes, mais on a aussi la chance d'avoir une histoire du passé qui nous permet d'avoir accès à un climat bien différent de l'actuel.
On peut déjà prévoir dans est-ce que dès maintenant, on peut déjà prévoir dans 10 000, 20 000 ans une prochaine glaciation?
Alors ça, ce ne sont pas avec les mêmes modèles. Il faut des modèles un peu plus simples parce qu'en fait, ces modèles qu'on utilise pour faire la prévision du climat futur, on peut malheureusement les utiliser qu'environ sur quelques centaines, voire un millier d'années, mais on ne peut pas encore les faire tourner sur 10 000 ans, ça coûte trop cher en coût de calcul, donc on se sert de modèles un peu plus simplifiés. Et effectivement, on a montré que, ça c'est l'équipe d'André Berger en Belgique, a montré que lorsqu'on soumet un modèle de Terre, d'environnement, aux variations du mouvement de la Terre autour du Soleil pour les 100 000 années qui viennent, eh bien, on rentrerait dans une glaciation d'environ 20 000 ans et on atteindrait un maximum dans 60 000 ans. Donc ça nous laisse un peu de répit. Et si entre-temps, l'homme n'a pas complètement tout bouleversé et empêché l'arrivée de la glaciation. Oui. Attendez, parce que là, ils attendaient aussi depuis un certain temps. Allez-y.
Oui, m'excusez. Bon. Moi, je suis un peu inquiet, enfin, entre guillemets, parce qu'il est dit communément que l'univers a grandi.
On n'est plus sur les mêmes échelles de temps, là.
Oui, non, mais justement, je sais bien que le système solaire n'est pas dans c'est pas l'univers, mais si on rapporte ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans quelques...
Milliards. Là, on a atteint les milliards d'années, on a un petit peu plus de temps.
Il fera beaucoup plus froid.
Chaud. Va grossir, le Soleil grossit. Depuis les origines, la Terre a 4,6 milliards d'années. Le Soleil, en fait, l'énergie qu'on reçoit du Soleil a augmenté de 25 à 30%. Donc, on a déjà subi une grosse variation. Mais évidemment, là, on rentre, ça dépasse les millions d'années. Là, on dépasse, c'est plus du tout la même échelle de temps. Mais je suis d'accord que ça fait partie aussi des données du problème.
C'est la curiosité, quand même.
Tout à fait. A priori, on devrait avoir des problèmes de chaleur.
Ma question concerne un livre qui a été publié il y a un an environ aux États-Unis, qui s'appelle en anglais de Noah's Flood. Et qui vous connaissez.
Donc, enfin, je viens de lire un peu des choses dessus.
Bon, je vais résumer pour.
Allez-y, c'est un point très intéressant.
Ma question, c'était, j'aimerais bien connaître votre sentiment par rapport au contenu de ce livre. Peut-être si vous le connaissez, vous pouvez écrire mieux que moi.
L'idée, c'est à propos du déluge, toujours le même, celui qui a fait qu'on pensait que les Louis Agassiz se trompaient et que c'était le déluge. L'idée communément admise sur le déluge, c'est qu'en fait, on remonte, il n'y a pas seulement le déluge, n'est pas seulement mentionné dans la Bible, mais aussi dans des textes de Mésopotamie, hein, dans des textes acadiens, donc antérieurs. Et dans une région entre le Tigre et l'Euphrate, l'idée communément admise, c'est que ces fleuves, on est dans une zone de plaine, et qu'il est très probable qu'il y a eu régulièrement des inondations, des débordements de ce fleuve, et il suffit qu'il y ait eu une fois plus impressionnante pour que ça ait suffi pour marquer les populations. Donc ça, c'est l'idée communément admise, et qui est celle, enfin bon, qui est effectivement l'idée de la majorité. Alors, effectivement, dans ces périodes-là, on est dans la période où le Sahara est plus humide. C'est une période où, effectivement, dans ces zones tropicales, on a un peu plus de pluie, on a un peu plus d'humidité. Donc, ce n'est pas impossible qu'on ait ce genre de choses. Alors, l'idée qui a été développée par, alors, je ne sais plus les noms, enfin, ce sont des géologues, c'est de dire qu'en fait, ce déluge aurait été provoqué par, lorsqu'il y a eu la remontée du niveau de la mer, après, quand la mer était assez basse, la mer Noire était isolée complètement de la Méditerranée. Et puis, à un moment donné, avec la remontée du niveau de la mer, mais après, en fait, ça a mis quand même un certain temps, la barrière a cédé entre la mer Noire et puis la zone plus vers la Méditerranée. Et du coup, le Bosphore s'est formé. Et du coup, il y a eu une arrivée massive, alors qu'on avait un lac d'eau douce. Tout d'un coup, on voit un changement complet de composition et l'arrivée d'eau de mer, et qui a dû s'étendre très rapidement avec les populations qui ont dû fuir très rapidement, et il y a environ 7500. Bon, moi, je ne suis pas spécialiste de ça pour pouvoir répondre et juger entre les deux. Je trouve que les deux idées se tiennent. Il faut aller plus loin et bien vérifier. Je pense qu'il y a cette idée, il faut après essayer de l'étayer, de vérifier. Enfin, c'est toujours pareil, quand il y a une théorie, il faut après la confronter à différents indicateurs, voir si tout tient la route jusqu'au jour où on trouve des éléments qui font que la théorie s'effondre. Hein. Donc, c'est toujours la démarche scientifique et il va falloir la confronter à de nouvelles données d'archéologues. Moi, j'avoue que je trouve les deux idées intéressantes. Je pense que c'est... Alors ça, c'est la richesse du domaine, c'est-à-dire qu'il faut, il y a besoin d'études pluridisciplinaires entre les archéologues, les préhistoriens, entre des géophysiciens, des climatologues, pour arriver à confronter les idées et puis voir si ça tient. On le retrouve à beaucoup de... Il y a beaucoup de textes où on les retrouve. Je pense que c'est un très, très beau sujet. C'est régulièrement... Enfin, bon, c'est une question qui reste à clarifier. Bon.
Oui, moi, je pense à l'expédition Lot, je crois que c'était en 56 ou 55, dans les grottes du Hogar, dans le Tassili, puisque c'était la première fois qu'on découvrait donc des dessins qui dataient de 10 000 ans, où on voit des antilopes, des peules, des peuplades nomades et pasteurs. Et je voulais savoir, quand il y a eu cette expédition, est-ce que vous pensez quand même qu'il y avait déjà une perception évidente de changement climatique, mais qui n'était pas aussi évidente parce qu'il n'y avait pas les moyens d'investigation scientifique qu'on a maintenant?
C'était quand?
C'était dans les années entre 50-56, l'expédition Lot, dans les grottes du Tassili. D'ailleurs, ils ont calqué, ils n'auraient pas dû calquer parce qu'ils ont abîmé un peu les dessins. Et on voit effectivement des antilopes, des girafes, des éléphants, mais par contre, ce que vous disiez, donc des crocodiles et d'autres animaux ne sont pas présents.
Ça fait longtemps, en fait, hein, que les gens travaillent sur cette période humide et au Sahara, et je pense que ça fait longtemps que les gens s'en sont rendus compte. On accumule progressivement une connaissance. Hein, c'est-à-dire les mécanismes, on a commencé à avoir des idées sur les processus. Il faut attendre les modèles en 1980. On a encore maintenant une meilleure vision par l'amélioration des modèles. Je pense que c'est quelque chose qui est venu progressivement. Et à mon avis, ça fait quand même un certain temps. Je ne connais pas l'historique, mais je pense que ça fait quand même un certain temps qu'on sait que le Sahara a connu une période plus humide.
Vous avez terminé par l'effet de serre, qui en ce moment réchauffe du moins notre zone européenne. Est-ce que vous pensez que cet effet de serre peut être compensé par le recyclage du gaz carbonique atmosphérique dans les bicarbonates, dans les calcaires d'eau marin?
Attendez, répétez-moi ça.
Le recyclage du gaz carbonique qui réchauffe la planète, le recyclage en calcaire qui abaisse la température.
Non, c'est le gaz carbonique qui augmente Et ça, on le mesure depuis 1958, on mesure et on voit qu'il y a une augmentation de la teneur en gaz carbonique dans l'air, c'est de la combustion des énergies fossiles. Hein. C'est-à-dire que c'est le fait de brûler du charbon, du pétrole, du gaz carbonique qui, en fait, a été piégé à un moment donné par les animaux, enfin, par les végétaux et par les animaux vivants, qui, au lieu de se décomposer, ne sont pas décomposés complètement, parce qu'il y a des conditions qui ont fait que ça s'est produit comme ça, et du coup, en milieu, dans de l'eau. Et du coup, nous, maintenant, on brûle, on fait la réaction qui est de brûler ce carbone accumulé et de l'envoyer dans l'atmosphère sous forme de CO2. Donc le calcaire n'a rien à voir là, même si, effectivement, au niveau de la Terre, ce qui contient le plus de gaz carbonique, en fait, il faut s'en rendre compte, ce sont les calcaires sous forme de carbonate.
Ce phénomène n'a pas une importance.
Mais c'est pas ça. Là, on atteint, si vous voulez, les calcaires, on atteint les cycles le cycle géologique du cycle du carbone, c'est le million d'années. On n'est pas du tout sur cette échelle-là. Là, actuellement, ce que l'on fait, alors on joue effectivement quand même sur la géologie, puisqu'on va prendre des énergies fossiles, en fait, on va prendre du charbon et du pétrole que l'on brûle et qui, eux, se sont formés il y a des centaines de millions d'années. Hein, donc, il faut se rendre compte qu'on est en train de brûler quelque chose qui s'est formé il y a très longtemps. Par contre, quand vous dites que ça chauffe le climat en Europe, ça chauffe surtout les journaux, oui, enfin, ça échauffe beaucoup les gens, mais on ne peut pas dire que, si vous voulez, ça chauffe. Enfin, je suis persuadée qu'il y a un réchauffement du climat et qu'on va vers une accentuation de ça. Il n'y a pas quelque chose en ce moment. C'est-à-dire que je voudrais aller contre ça. C'est tout le temps, c'est continu, c'est l'effet de serre, il est là, il augmente. C'est pas à un moment donné il se passe quelque chose. C'est vrai qu'à un moment donné il peut y avoir un débordement du temps. Est-ce qu'il est lié ou pas au gaz à effet de serre? C'est impossible de répondre, impossible de dire oui, impossible de dire non. Enfin, je veux dire, on peut pas dire. Le temps est trop variable pour pouvoir répondre à cette question. Il continue à augmenter, ça va augmenter. Le climat va se réchauffer et il y aura des choses auxquelles on n'est pas nécessairement habitué. Mais il se passe pas quelque chose là en ce moment. La difficulté, c'est que justement, c'est du long terme. Enfin. C'est du court terme à l'échelle de l'histoire de la Terre, c'est du long terme pour les politiques et pour nous.
Moi, je voudrais vous poser une question au sujet de l'eau, et notamment l'origine de l'eau qu'il y a sur la Terre, la quantité d'eau. D'après ce que j'ai compris, il y a presque autant d'eau ou autant d'eau qui serait contenue dans la croûte terrestre. Est-ce que vous savez quelque chose sur les échanges?
Non, là, vous ne vous adressez pas à la bonne personne. Là, il faudrait un géophysicien interne. Je peux pas, je sais pas vous répondre. Là, c'est
et
pas
l'origine de l'eau qui est sur
c'est
la surface.
C'est hier à Vincent Courtillot qu'il fallait poser la question. Allez-y, excusez-moi.
Et l'origine, de l'eau qui est sur la croûte terrestre, c'est.
Non, là, je sais pas vous répondre. Ce que je peux vous dire, c'est que le fait qu'il y ait de l'eau, il y a toujours, ça a joué un grand rôle dans l'évolution de la vie, c'est indispensable à la vie. Un point qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a mentionné tout à l'heure, aux grandes échelles de temps, il y a une augmentation du rayonnement solaire. Effectivement, ça va continuer à l'échelle de milliards d'années, et ça s'est déjà produit dans le passé. Ce qui est extrêmement étonnant, c'est que si on était dans les conditions qu'on a aujourd'hui, on devrait, avec l'énergie qu'on recevait il y a 4 milliards d'années, eh bien, la Terre, au jour d'aujourd'hui, elle serait gelée. Et on aurait beau avoir augmenté de 30% l'énergie solaire, on serait toujours dans une planète gelée. Parce que quand on a de la neige et de la glace, ça réfléchit le rayonnement solaire, ce qui fait qu'il faut encore plus d'énergie pour arriver à la faire fondre. Et on n'a pas eu ça grâce aux gaz à effet de serre. Donc je n'aurais quand même pas à dire à chaque fois que les gaz à effet de serre, c'est catastrophique, parce qu'en fait, heureusement qu'il y a des gaz à effet de serre. Ils ont permis, il y a 4 milliards d'années, la Terre devait avoir plus de gaz à effet de serre, et plus de gaz carbonique. Celui qu'on trouve sous forme de calcaire, il était à ce moment-là dans l'atmosphère. Et avec le développement de la vie, il a été piégé sous forme de carbonate de calcium, typiquement les petites bébêtes que je vous ai montrées, celles qui nous servent à reconstituer le volume des glaces, eh bien, celles-ci, elles ont piégé progressivement et elles ont formé nos falaises calcaires qu'on voit un peu partout. Ça a piégé du gaz carbonique à l'échelle de toute la Terre. Au passage, ces gaz à effet de serre, je voudrais quand même vous donner le chiffre suivant, s'il n'y en avait pas au jour d'aujourd'hui, on aurait une température qui ne serait pas de 15 degrés en moyenne sur la surface de la Terre, mais de moins 18 degrés. Donc, heureusement qu'il y a des gaz à effet de serre. Ce dont on parle actuellement, c'est une accentuation, le fait qu'on augmente légèrement, très légèrement, par rapport à la quantité en absolu, on augmente un peu les gaz à effet de serre, et ce qui fait que par rapport aux 33 degrés qui sont de réchauffement qui sont liés aux gaz à effet de serre, une petite perturbation, si ça nous fait 10%, ça nous fait quand même 3 degrés. Hein. Donc, bon, ce n'est pas comme ça qu'on calcule, hein. On calcule ça avec des modèles plus sophistiqués, mais pour vous donner des ordres de grandeur, là, actuellement, on parle d'une petite perturbation. Mais qui est grande quand même pour nous.